that was the least of what they did. They opened fire on the people, and these were truly...
日本政府はインドネシアに真相究明を申し入れ、国会議員は
When Indonesian troops opened fire on a crowd...
This is CBC Radio.
The massacre of 100 unarmed Timorese by the Indonesian military...
I see Imagine the primary...
Photographs of a bloody massacre during a fight for freedom.
In the face of the massacre story, even Suharto's longtime allies were compelled to condemn the killings and came under public pressure to cut back their aid to Indonesia. In Australia, large crowds marched on the capital and surrounded Indonesia's local consulates. The European Parliament voted for sanctions against Indonesia, and the European community later cancelled the scheduled trade pact. There were even open protests inside Indonesia, where student demonstrators were beaten and arrested. Back in the United States, the Bush administration continued to ship weapons to Indonesia.
That's an excerpt of Massacre, the Story of East Timor, the documentary I produced with journalist Alan Nairn. East Timor, or Timor-Leste, would vote for its freedom in a UN referendum in 1999 and become an independent nation in 2002, one of the newest nations in the world. The video from inside the cemetery was filmed by Max Stahl, the award-winning filmmaker who died several weeks ago at the age of 66. To see the whole thing, go to Democracy Now! .org. I'm Amy Goodman. Stay safe.
Salut, ici Matt Track, vous écoutez CKUT 90,3 FM.
Bonjour tout le monde, vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. C'était la pièce de Gros Soleil. Marc-André, comment vas-tu?
Je vais très bien. Et toi, Nelson, je suis en feu ce matin.
Écoute, avec cette chanson-là, je suis en pleine forme. Je me sens pimpant. Je suis prêt à affronter la journée.
J'ai une érection matinale.
On peut le dire comme ça aussi. Ça arrive. Hein?
Ça arrive.
C'est des choses qui arrivent pour les gens qui ont des qui ont ce membre-là. Écoute, Marc-André, aujourd'hui, on a une émission spéciale thématique.
Oui.
Rock.
And roll et horreur.
Et c'est vraiment l'automne. C'est la saison de l'horreur.
Octobre, novembre.
Il fait noir. Il fait froid. Et il y a des feuilles qui tombent. C'est très beau. On aime les couleurs. Les couleurs disparaissent tranquillement. Tout comme les belles couleurs de la pochette de vinyle de l'album, de la pièce qu'on vient d'écouter, de l'album de Gros Soleil.
Oui, on a commencé ça en feu parce que Gros Soleil, c'est un vinyle. L'album s'appelle « Aux cultures populaires ». Et c'était la face A, cercle de sel. Je vais m'en faire juste dans les mots. Voodoo 2.
Miam, du sel, on aime ça. Et surtout dans un cercle pour, j'imagine, des rituels sataniques.
Ouais, Satan. Non.
C'est pas ça?
On va pas rentrer là-dedans. Écoute, j'ai une poupée voodoo dans les mains. C'est pas une blague. Là, c'est sûr que personne ne peut nous croire sur parole, mais...
Je suis témoin.
T'es témoin.
Je suis dans la même pièce que toi en ce moment. On n'est pas dans un studio d'enregistrement. Et il y a bel et bien une poupée voodoo dans les mains. Marc-André, s'il te plaît, fais attention avec cette poupée-là.
Oui, surtout qu'elle a une aiguille dans le bras gauche.
Bon,
c'est peut-être pour ça que j'ai mal...
S'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment et qui a mal au bras gauche, c'est la faute à Marc-André.
Exactement. Elle est faite en jute. Elle est faite en jute. C'est moi qui l'ai faite.
C'est toi qui as fait ça?
C'est ma troisième poupée que j'ai faite.
OK, toi, tu t'adonnes à des pratiques voodoo, Santeria, ces genres de choses-là?
Condomblé. Non, pas tant que ça. Là, mais j'avais un groupe jadis naguère et on avait fait... on est obsédé par les drums. Puis depuis le début de l'émission, depuis les débuts du show. Et notre drummer, au lieu d'avoir un animal comme dans les Muppet Show, comme tous les drummers à l'époque, là, on se retourne dans les années 90, c'était la grosse The Animal, le Muppet Show.
Ouais.
Ben, nous autres, on était bien plus dangereux et hardcore que ça. Nous autres, on s'était fait des poupées. Ça, c'est de la jute. On avait pris de la jute, on l'avait rembourrée, on l'avait découpée, puis on l'avait cousue. Puis elle avait une chaîne, puis elle était entre les deux tonnes de notre drummer Mathieu dans notre local de musique. Mais l'histoire, vite, c'est elle ressemblait plus à Gumby. Tu te rappelles de Gumby? C'est un petit bonhomme vert là, avec un cheval. Ben, on l'avait tellement mal faite, notre poupée voodoo, qui était un petit peu elle avait une tête un peu comme déformée.
Okay.
Puis ça, elle ressemblait vraiment à Gumby. Puis c'était notre Lucky Charm sur le drum de Mathieu.
Okay.
Et on partageait le local avec trois autres groupes. Et on était avec le dernier groupe qui était rentré, c'était des pourris. On va le dire comme que c'est. Puis,
c'était le nom du band, tu veux dire.
Oui, c'est ça, les pourris.
Le groupe, les pourris.
On va les appeler les pourris. Non, je ne me rappelle pas le nom du band. C'est un band de cover vraiment mauvais.
Ah, OK.
Puis on partageait le local puis les frais avec
ils
eux
étaient
autres.
Mauvais, c'est ça que tu veux
ils
dire.
Ils étaient mauvais, mais on va les appeler les pourris.
OK.
Puis les pourris, ils ne payaient pas leur loyer, leur cotisation. Puis ils sont partis à un moment donné. Puis ils ont laissé tout le local plein de déchets. Puis ils ont ramené leur drum. Ils ont vidé leur coin, mais ils sont partis avec la poupée voodoo. Fait que j'espère que j'ai fait, c'est ma troisième. On a deux ici. J'ai la numéro 2 et la numéro 3.
Là, faut que tu m'expliques quelque chose, Marc-André.
Ouais.
Une poupée vaudou, là.
Ouais.
Habituellement, tu fais ça quand tu veux infliger de la douleur sur quelqu'un en particulier, non?
Ouais.
Fait que faut que tu es supposé prendre comme par exemple une mèche de cheveux de la personne que tu cibles.
Mais quand tu dormais, tu t'en es pas rendu compte. J'ai volé des poils de moustache.
Parce que tu étais dans la même maison que moi pendant que je dormais.
Exactement.
Ah, tu m'apprends ça.
Je t'apprends.
C'est plutôt inusité. OK. Bon, ben, ouais, ça m'inquiète. Mais c'est ça. Donc là, tu as une poupée vaudou qui sert à quoi exactement?
Ouais, c'est de la décoration.
C'est de la décoration. OK, tout simplement.
On veut pas. On rit pas de ça en passant. J'ai quand même. Je suis allé en Haïti, mais j'ai beaucoup de.
Excusez,
ça se dit bien dans une conversation. Non, mais je veux vraiment dire que tout ce qui est candomblé, voodoo, santeria, j'ai une fascination depuis longtemps sur Dia de los Muertos, de la Santa Muerte, tout ça. Un grand respect pour tout ça, parce qu'en voyageant, tu rencontres des gens qui ont des croyances différentes que les tiennes. Et je suis curieux. Mon petit côté ethnologique urbaine me fait découvrir des endroits, des fois inusités, des endroits qui ont rituels ou des choses par terre, un peu comme ici dans le local. Et fait que c'est ça. Fait que eux, le cercle, groupe. Mais là, mais. Hey,
il y a un cercle de sel au sol.
Il y a un cercle de sel. Et en haut de toi, il y a un pentagramme. Et j'ai appris que le pentagramme, qui est tout le temps associé au satanisme, à côté de la boule de disco. Disco, puis.
Ça y est.
Disco, puis pentagramme vont bien ensemble. On a trouvé ça à Sherbrooke, il y a un magasin de.
Un certain disquaire de Sherbrooke.
Non. On retourne pas ces anecdotes-là. mais c'était le même voyage. Là, tu me fais perdre mon fil. Hey, là, on fait un méchant détour par Sherbrooke, encore une fois. C'est les cinq éléments. Si tu lis en toi, c'est le feu, la terre,
l'air et l'esprit.
L'esprit, fait que c'est ça. C'est tout du positif. C'est de la magie blanche qu'on parle. On parle pas d'aucune magie noire.
OK. Fait que là, on peut faire un lien.
Dans... Oui, ben c'est ça.
Avec gros soleil.
C'était ça, je voulais m'en venir, mais on est allé loin, pas à peu près, avec voodoo, poupée voodoo, cercle. L'album, comme je disais, s'appelle « Aux cultures populaires ». À la prise de son, je te dis que c'est un certain Peter Edwards qui a fait ça. Est-ce que ça te dit de quoi?
Ça me dit Edward Scissorhands.
Non, mais t'es pas loin, mais c'est pas ça.
OK.
C'est le guitariste, un des guitaristes de Grimmskunk.
Ah, excusez, ben oui.
Parce qu'ils sont sur le label Indica Record.
OK.
Qui est sorti en 2020. Et là, on va nommer des musiciens parce que faut leur donner, faut rendre à César ce que
appartient
à César.
J'ai hâte.
Gros Soleil, c'est Dominique Lamoureux, voix et guitare, Sébastien Boucher aux guitares, Frédéric Lamoureux à la batterie et Christian Boileau à la basse. Là, moi, je suis en train de me poser comme question et je ne sais pas la réponse. Je te la pose, mais on ne sait pas plus la réponse. Je crois que c'est peut-être une fratrie, c'est deux Lamoureux.
Écoute, c'est une maudite bonne question. Si vous connaissez la réponse, appelez-nous. On va essayer de vous passer en onde. Et,
de faire tirer la poupée vaudou.
Et on vous gagne la poupée vaudou qui...
Vaudou 2, c'était pour ça aussi que mon lien, c'était Vaudou 2. C'est que le titre qu'on a fait jouer, c'était Cercle de sel, Vaudou 2. Sans face,
ouais.
L'album est très solide. C'est du rock comme... Ouais. Il devrait en avoir plus. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est solide. La production, les paroles, la musique, le packaging, tout est excellent.
Ouais.
Tu remarquais au début, quand j'ai mis le vinyle et ça tournait, tu as dit « Ah, oh, c'est un dé sur la face A. » C'est un dé de Dungeons & Dragons. C'est un multifacette. Là, de
dans le fond, l'image qui est sur le vinyle lui-même.
Oui, sur le
au
disque.
Au centre du disque.
Oui. Parce que le trou, là. Et la pochette, je veux faire un shout-out à... Je ne connais pas l'artiste, je vais le nommer, mais j'ai aucune idée c'est qui. Il s'appelle Arnaud People, et la pochette est hallucinante.
Ouais, vraiment.
Je capote, je suis en extase. Gros Soleil, dans le fond, c'est Le Pont, soit Champlain ou Jacques Cartier,
je dirais, ouais.
Qui est en feu, qui a une explosion. Il y a une fusée qui part du pont. C'est la fusée de...
Tintin.
Oui, Tintin, la
on
fusée rouge,
la
et rouge et blanche avec les carreaux. On a la mort, le Grim Reaper avec sa faux qui est en train de faire un hang loose. Il y a une Trans Am ou une Pontiac en feu avec une vitre brisée. Hallucinant. Et à l'endo, le trip visuel continue. Je l'ai remarqué cette semaine, ça, par exemple. Il y a le top du Mont-Royal qui représente bien Montréal,
ouais.
Mais il est à l'envers.
Le crucifix, donc la croix du Mont-Royal, est à l'envers. Et il y a un éclair jaune qui...
Ça fait penser à quel groupe que j'adore?
Penser à aussi? Bad Brains.
Et oui!
Ouais.
Washington, l'album jaune. Et là, t'as un tigre avec des billets verts qui sont des SOS. T'as un triangle avec un œil bleu qui est comme le troisième œil.
La pyramide.
La pyramide du
qu'on voit sur les billets de banque américains.
Exactement. Et là, au lieu d'avoir un Marshall pour le rempli de guitare, c'est un Monarch avec une Flying V de Gibson, je crois.
Excellent choix, Gros Soleil, vraiment, si vous connaissez pas, ben allez écouter ça.
Puis en vinyle, sonne comme une tonne de
Est-ce qu'on a déjà vu un spectacle de Gros Soleil?
Non, mais ils vont en annoncer prochainement. Là, les gars sont en feu. J'ai
si vous nous écoutez, s'il vous plaît, faites des shows live de Gros Soleil parce que c'est clair que c'est le genre de musique qu'on veut écouter live.
On va en avoir de besoin du Gros Soleil en parlant de luminosité.
Oh, Pelay, le lien, toi.
Qui baisse. Ouais, c'est tout stagé, c'est tout scripté. J'ai bien de la misère à suivre le scénario.
Hey, Marc-André, on a un gros programme aujourd'hui. Il faut commencer.
Oui, ben, on en parle-tu vite, c'est quoi?
Donc, on parle
de la musique.
En rock'n'roll.
Oui. Il va y avoir du métal québécois en français, rien de moins.
OK, oui.
Il va y avoir du rock garage revival canadien.
Pourquoi pas?
Du CanCon. Et un petit groupe du Mexique qu'on a coupé dans le mix la dernière fois. Et qu'on a vu en spectacle et que j'adore. C'est dans mes top groupes mexicains. Fait que c'est à peu près ça le programme. On a cette semaine, je vais lâcher la bande dessinée, on va parler d'une monographie, d'un livre. Et toi, tu vas me parler de...
Suggestion théâtre pour le retour au théâtre.
Vas-y.
Maintenant même? OK, parfait.
Oui, parce qu'après, on va
tomber en musique. Je vais sortir mon téléphone parce que j'ai pas ça dans ma tête par cœur. Suggestion théâtre à l'Espace Libre à Montréal. Donc, la pièce qui s'appelle « Rock Bière », le documentaire.
Yeah.
Donc, il s'agit bel et bien d'une pièce de théâtre documentaire sur le monde du drag king. Connais-tu le drag king?
Non, je connaissais pas ça.
Ben, c'est comme des drag queens, mais inversé. Donc, ce sont des femmes habillées en hommes qui personnifient des personnages masculins.
Ça va être rock'n'roll.
Ça va être rock'n'roll.
J'ai hâte de voir ça.
Très, très cool. Donc, à l'Espace Libre, ça commence du 16 novembre et c'est à l'affiche jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 4 décembre. Oui, du 16 novembre au 4 décembre. Donc, c'est pour plonger dans l'univers de la drague. Donc, c'est mise en scène de... Je l'écris ici, non? Geneviève Labelle.
OK.
Et interprétée par Mélodie Noël Rousseau, qui joue le rôle principal de Rock Bière. Donc, suggestion, on va peut-être en reparler dans les prochaines semaines, qui sait. Mais à l'Espace Libre, allez voir ça.
Excellent. Ben c'est... J'aime le titre, Rock and Roll et bière. On dirait
Rock Bière, ça sonne...
On dirait que c'est notre productrice qui nous a envoyé ça. On voudrait les remercier. On voudrait remercier l'équipe de CKUT.
Ben oui.
Jack et Spencer qui font en sorte que notre émission elle a un bon son et elle est bien construite parce que des fois, nous, on fait des affaires tout croche et eux sont pris avec la matière première puis il faut qu'ils fabriquent un show de radio.
Exactement.
Avec.
Donc, si vous nous entendez en ce moment même, c'est grâce à ces gens-là.
Respect.
De CKUT et aussi à la fameuse antenne sur le Mont-Royal.
Qui n'est pas à l'envers.
Qui n'est pas à l'envers, exactement, mais qui est une antenne, qui n'est pas une croix. Donc, on continue en musique. Marc-André, est-ce qu'on présente la deuxième pièce? Non? OK. Ben Marc-André va peser sur le piton, puis moi, je monte le son.
She comes around. When the sun goes down, she comes around. When the
Yeah, ça c'était de la bonne musique rock. Marc-André, s'il te plaît, présente-moi ce groupe.
Ça là, c'est pour vous réveiller, puis je viens de faire le lien, j'avais pas fait le lien. When the sun comes down, she comes around. Encore le soleil. L'astre tout, du désastre.
Tout est dans tout, ça n'a aucun sens. C'était qui?
C'était les Tricky Woo, un band montréalais.
Oh, que oui.
Fait que si vous avez trippé sur l'époque des Stooges avec Iggy Pop, si vous avez trippé les MC5, l'époque Detroit Rock, là, Detroit Rock City, pas à la Kiss, mais à la, le proto-punk,
okay,
ben
ouais.
Eux, c'est les fils spirituels. Fait que là, après ça, avec des bands comme des Helicopters, The Hives, vous avez Tricky Woo.
Tricky Woo.
Tricky Woo, et la pièce était Fly the Orient.
C'était excellent. Merci pour cette découverte, Marc-René. Je ne connaissais pas ce groupe-là.
Malheureusement, j'ai jamais vu en show et c'était des bêtes de scène, supposément. Ils ont fait plein de shows, mais ça n'a jamais donné. J'ai peut-être découvert ça sur le tard. Mais dans mes mains, je viens de découvrir qu'il m'en manque, par exemple. J'étais triste. L'album que j'ai dans les mains, et là, il y a une très bonne nouvelle pour les auditeurs qui trippent vinyle comme moi. Il y a une réédition de Rock and Roll Music Part 1, The Enemy is Real et Sometimes I Cry. Et Sometimes I Cry, c'était la pièce qu'on vient d'entendre, qui est leur troisième album, qui sonne, c'est malade.
Okay.
C'est vraiment bon. Là. T'as de la misère à croire que ça vient de Montréal. Là. C'est des...
Ben, ça sonne vraiment super bien.
Exactement.
C'est vraiment solide comme rock. C'est vraiment du rock pur. Là. C'est comme
exactement.
Un son...
Ouais. Puis un petit côté garage, un petit côté punk, un petit côté new wave. C'est baveux, irrévérencieux, subversif, comme on les aime. Mais moi, je regarde, là, j'ai les CD dans les mains. Je n'aurai pas les éditions des vinyles. Ils sont quand même assez dispendieux. À part, il paraît qu'il m'en manque deux. Il y a comme un album qui est sorti, que c'est tout des B-sides ou des raretés. Et il y a le premier album, je ne l'ai pas. Je ne savais même pas que ça existait. Je pensais que je les avais tous.
Okay.
Mais ce n'est pas le cas. Et là, les albums, je regarde et comparé au premier band qu'on a montré, mais vous irez voir, Gros Soleil, que le visuel est super accrocheur, la pochette est belle. Tricky Woo, je les adore. Mais quand tu regardes les pochettes puis tu connais pas le groupe, tu regardes ça, j'ai monté à Nelson en même temps que je vous parle. Moi, je peux pas dire c'est quoi ce band-là? C'est quoi?
C'est plutôt abstrait, hein?
C'est pas abstrait, très... c'est bizarre. The Enemy is Real, c'est des petits ours. Les Sables Magiques, c'est plus graphique, c'est correct. Et Sometimes I Cry, c'est les dessins du guitariste. Fait que je veux pas faire un plus comme leur musique est écœurante, leur dessin est moins bon, mais ça vient moins me chercher. Parce que ça te dit pas dans quoi tu t'embarques. C'est un petit peu plus naïf, mais bon, je vais laisser la chance.
Mais allez écouter ça. Tricky Woo.
Oui, définitivement.
Et ne pas se fier à la pochette, nécessairement.
Exactement.
Comme il ne faut pas se fier à la couverture d'un livre.
Non.
Mais
don't
aujourd'hui...
judge a book by his covers.
Parlant de cover ou de d'autres choses,
ouais.
Tu voulais nous parler d'un documentaire que tu as vu sur Netflix cette semaine?
Oui, exactement. Je ne pensais jamais parler de cet artiste-là à l'émission.
Ah non, pourquoi?
C'est pas dans mes cordes de...
De quel artiste parle-t-on?
On parle de Britney Spears.
OK, wow, Marc-André, t'as-tu mangé trop de bonbons cette semaine hein, qui fait que t'écoutes des documentaires sur Britney Spears ou t'étais juste fatigué puis t'es tombé là-dessus par hasard?
Ça ressemble à beaucoup de facteurs, mais non, mais en gros, je suis toujours curieux de voir des biopics de vedettes, d'artistes.
Ouais.
Puis un documentaire, c'est pas un biopic, là, c'est un documentaire.
OK.
Moi, j'avais beaucoup aimé en 2015 un documentaire qui retraçait la vie de Amy Winehouse jusqu'à sa mort. Ça s'appelait tout simplement Amy.
Okay.
Puis on découvrait dans ce documentaire-là, tu l'as-tu vu?
Non, je ne l'ai pas vu.
C'est bon. Moi, je suis un fan d'Amy Winehouse. Fait que, et dans ce documentaire-là, on voit sa déchéance, mais on voit que le père, Mitchell...
Le père de Britney
Spears. Non, d'Amy Winehouse.
Amy Winehouse. Okay.
Laisse-moi venir avec Britney. Elle s'en vient
là-dessus. Excusez.
Elle n'est pas mortelle. Le père Mitchell Winehouse était bien impliqué dans la carrière, dans la vie tumultueuse de sa fille.
OK.
Et là, moi, je veux vous parler d'horreur aujourd'hui. Pas l'horreur des slashing movies, Chainsaw Massacre, Les Griffes de la Nuit, Friday the 13th, Halloween, non. L'horreur de la déchéance des artistes, comme Amy Winehouse, c'est un exemple. Et là, Britney Spears, c'est la même affaire. Elle n'est pas morte, là, mais le documentaire s'appelle Britney versus Spears, sorti en 2021 sur Netflix. Et ça, c'était fait par la rédactrice en chef du Rolling Stone, un magazine que je lis des fois, de moins en moins, mais c'est la rédactrice Jenny Illescu. Et une femme et une réalisatrice très groupie de Britney qui s'appelle Erin Lee Carr.
Okay.
Et ces deux femmes-là se rencontrent et trouvent que la vie de Britney Spears va tout croche. Moi, j'étais pas au courant de tous ces déboires. Je ne la suis pas. Mais s'il y avait une nouvelle catégorie aux Oscars dans les films d'horreur sociale, Britney Spears est en liste, okay. est en tête. Je vais ouais. t'expliquer pourquoi.
Okay.
En gros, il y a une tutelle sur l'artiste pour la garde de ses enfants. Là, on parle de Britney Spears.
Ouais.
Il y a les circonstances entourant sa mise en place. Il y a la descente aux enfers en 2007 de Britney Spears. J'ai de la misère à dire Spears.
Ouais.
Et là, le lien que je voulais faire avec Amy et Jamie, avec Britney, c'est que le père Jamie Spears, qui est absent du décor dans sa vie, à Britney Spears, réapparaît dans sa carrière.
Okay.
Il essaie de contrôler tout, comme un control freak.
Oh.
Fait que là, encore un papa qui se mêle trop de pas de ses
ouais.
affaires.
Ouais, ouais.
Et là, il évoque qu'elle a une démence, qu'elle a des problèmes, qu'elle a des mauvaises fréquentations. Un peu comme Amy, on voit un parallèle. Et même, il a fait suivre par un psychiatre qui lui prescrit toutes sortes de médicaments. Fait que c'est là que ça va très mal. Moi, je vous conseille de la regarder. Moi, je suis pas un fan, mais aïe aïe, man, c'est fucké. C'est du film d'horreur. Même si c'est un documentaire, c'est peut-être biaisé par les réalisatrices ou peu importe. C'est épeurant. C'est,
ah oui? Est-ce que le film aborde sa carrière musicale, dans le sens qu'est-ce qu'on parle de,
oui.
de tout le côté artistique?
Oui, mais plus qu'est-ce que je viens de dire. Vraiment, là, la situation qui a fait que, tu sais, il y a eu des mouvements, c'était comme Free Britney, puis tout ça.
Okay.
C'est plus qu'est-ce qu'elle vit présentement en ce moment, puis c'est encore en train de se dérouler.
Mm.
Fait que c'est d'une, tristesse, c'est d'une ouais. tristesse, honnêtement. Imagine d'être retiré de tes enfants.
Ben, ouais.
Hey, Britney a fait des millions de dollars, puis je pense là, qu'elle a un père dixième, là, elle se promène avec du screening. Elle a comme 500$ dans ses poches.
OK.
Puis elle est entourée de managers, de monde.
Elle a dans le fond, elle vit comme ça parce que tu disais qu'elle est mise sous tutelle.
Oui, parce qu'elle ne serait pas capable de gérer rien. Donc autant, là, autant la business, ses affaires, que ses enfants,
okay.
que sa vie, que sa carrière. C'est comme si elle était une... excusez l'expression, mais comme si elle était débile. C'est comme si...
Oui, OK. Ils l'ont déclarée pas apte à gérer elle-même ses... sa propre vie, dans le fond.
Exactement. Donc, exactement. Ben, c'est démence. Le terme qu'il utilise, c'est qu'elle souffrirait de démence.
Ça, ça a comme été, comment je dirais, comme diagnostiqué.
Exactement.
Oh.
Mais le plus absurde de ça, c'est qu'elle a fait une tournée mondiale de je ne sais pas combien de dates. Je n'ai pas les chiffres avec moi. Vous allez l'écouter, vous allez le voir. Et ils disent qu'elle n'est pas capable de gérer sa carrière et de... Vous devriez voir, c'est elle qui fait les chorégraphies, c'est elle qui... C'est une machine, là. C'est la pression qu'elle
ouais,
a
ouais, ouais.
sur elle est incroyable.
Dans le fond, c'est comme si, après toutes ces années de pression, de travail,
ouais.
ben c'est comme un peu difficile pour un être humain normal de résister, dans le fond, de rester sain à travers
mais
tout
probablement,
ça.
Mais tout au long de sa tournée, tout ça, elle se bat à chaque fois pour ravoir la garde de ses enfants, de reprendre un contrôle de sa vie. Mais elle continue la tournée. Il rajoute des dates.
Mm.
Puis elle continue. Là, puis elle n'arrête pas. Puis elle n'a pas de nervous breakdown. Elle n'a pas de... Tu sais, elle fournit à chaque soir son 110%.
Je comprends.
Fait écoutez-le. Dites-moi ce que vous en pensez. à la ligne ouverte de CKUT 90.3 FM.
Hey, on va prendre une pause, Marc-André.
Oui.
Puis au retour de la pause, on a plein de belles choses pour vous.
Effectivement.
Restez des nôtres sur les ondes de CKUT 90.3 FM.
Cet automne se tient l'un des plus importants festivals de films documentaires en Amérique du Nord.
Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal.
RIDM.
Une 24e édition plus engagée et rassembleuse que jamais.
Au programme, les 100 meilleures œuvres documentaires de l'année.
Projetées en salle du 10 au 21 novembre à Montréal.
Également disponible en ligne du 14 au 25 novembre partout au Canada.
Rendez-vous à la Cinémathèque québécoise, là où toutes les histoires se rencontrent.
Consultez la programmation au ridm.ca.
Puisque ça fait plus d'un an qu'on le mentionne, et que de toute façon, vous le savez probablement déjà, on a décidé de ne pas vous le dire. Donc, on ne vous redira pas que pour se protéger de la COVID-19, il faut se laver les... On ne répétera pas encore une fois qu'il faut porter un... Et surtout, qu'il faut garder nos... avec les autres. Vous le savez, c'est la meilleure façon de combattre le virus, même lorsqu'on est vacciné. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90.3 FM. C'était une pièce de nos amis les Ghoulunatics.
Yeah, yeah.
C'était très rock, c'était très heavy.
Yeah.
C'était une pièce de leur album
Cryogénie.
Qui est entièrement
français.
En français, oui.
C'était ça mon heavy metal, mon metal en français.
Alors que ben, tous leurs autres albums sont en anglais.
Effectivement. Et toi, c'est des natifs de ton coin, de ton hood, de Verdun. On salue la gang de Verdun.
Bonjour Verdun, comment allez-vous?
Bon
allez,
matin.
Si vous êtes pour les Verdunois, ben pas juste pour les Verdunois, allez, si vous aimez la bière,
faut
aller à la boutique Malteops.
Avec la publicité, on espère avoir une coupe de canettes gratuites prochainement, hein, Pat?
C'est zéro subtil, mais on assume. Malteops. Malteops, la meilleure boutique en ville pour les bières de microbrasserie sur la rue Wennington à Verdun. Allez-y.
Allez-en famille. Amène tes enfants.
Et allez dire bonjour à Patrick.
Patrick, oui. Non, mais sans niaiser, les Goulunatiques, il y a Patrick Miro à la voix qui a cette boutique-là et qui est très rock'n'roll comme boutique. Surtout à l'Halloween, il doit avoir bien des têtes de mort. Il y en a à l'année, mais il doit en avoir plus en ce moment. Il y a François Dubois aussi à la guitare. Pat Gordon à la guitare, Gary Lyon Lyons à la basse et Brian Craig à la batterie. Groupe, comme on disait, de Montréal. Et ça, c'était enregistré chez un gars que je connais.
Ah ouais?
Oui, c'était enregistré au studio Wild Studio à Saint-Zénon.
Saint-Zénon. Oh, c'est wild.
C'est wild, hein? Saint-Zénon, il paraît que c'est bien wild, c'est bien de la forêt, puis tout, là. Mais okay. Non, sans niaiser, c'est Pierre Rémillard, ancien guitariste de Oblivion. Et ça sonne comme ça sonne. Ça sonne. La production avec Pierre Rémillard, c'est tout le temps sa coche. De Daniel Bélanger au, je pense, Hey Babies. Même j'ai vu des artistes rap aller enregistrer là. Son studio est reculé dans le bois, dans la forêt. Un peu comme qu'il y avait à Moray Knight, le studio Moray Knight où est-ce que Rush avait enregistré. Puis que malheureusement, je pense qu'il a passé au feu ou il a été vandalisé. Et là, j'ai vu dernièrement que si tu allais sur le site, je ne sais pas il est où exactement à Moray Knight, mais il y a des plaques commémoratives. Puis il y a des gens qui ont mis des albums.
Ah, des
comme
vinyles,
des vinyles ou des petites plaques. Il y a comme des plaques. Je sais pas si c'était pour une performance, une mise, comme une installation artistique, là. Mais j'ai vu les photos et j'ai trouvé ça très cool de leur part. Fait que c'était Goulunatique et Cryogénie. Cryogénie, tu sais, c'est quoi? Tu sais ce que ça veut dire? Moi, j'étais pas sûr, mais.
Ben, c'est quand on congèle. C'est ça?
C'est la congélation
d'être d'organismes.
Oui, ça peut être des légumes aussi, des fruits, tout ça. Ça peut être Walt Disney.
C'est ça j'avais en tête là, quand on congèle des cadavres.
Ouais.
C'est de la cryogénie, mais donc c'est congelé, mais à
très basse température.
Très, très basse.
Oui. Ouais. Puis Walt Disney, ben lui, il s'était gelé pour être réanimé.
Reanimator. D'ailleurs, la semaine prochaine, il va être réanimé. Monsieur Disney.
En Frankenstein.
Et donc, justement, pour l'Halloween. Hey, tu veux nous parler de... On est sur la thématique de l'horreur cette semaine.
Ouais.
Et qui d'autre mieux placé que un livre sur Rémy Couture?
Oui. Est-ce que tu connaissais Rémy Couture?
Ben oui, Rémy Couture, qui est un maquilleur... ou comment on appelle ça, quelqu'un qui fabrique...
Des effets spéciaux.
Effets spéciaux, donc qui fabrique des plaies, des cicatrices, des maquillages de zombies.
Des mutilations, ouais. C'est plus gore que ça, là.
Ouais.
Ouais, c'est plus que de la cicatrice, je peux te l'assurer.
C'est ça.
C'est un livre qui s'appelle « Le maquilleur de l'horreur ». On reste dans la thématique rock'n'roll et horreur. C'est pour ça que je voulais mettre du Goulunatique avant. Il me semble que ça rentre. Surtout que le gars, il est rock'n'roll, il trip metal. Et là, c'est le sous-titre ou le petit titre, c'est « Quand l'art devient criminel ».
Oh, que là!
Ça a été écrit par Rémy Couture et Charles-André Marchand dans la collection Injustice. Et je l'ai lu. Je l'ai lu au complet. Je ne l'ai pas juste feuilleté. Je vais vous faire un résumé. Dans le fond, Rémy Couture, c'est un maquilleur d'effets spéciaux, comme on a dit. Mais en octobre 2009, il y a eu une plainte... de la police. Il y a eu des plaintes concernant un site web qu'il avait créé. Ce site web, c'est pour faire la promotion de son talent de maquilleur d'artiste. Fait qu'il prenait des photos. Puis le site avait l'air tellement vrai qu'il y a du monde en Europe. J'ai-tu marqué le pays où est-ce que ça se passe? En tout cas, il y a eu des comme une dénonciation
ouais.
d'Interpol ou d'une entité policière internationale qui ont communiqué avec les policiers de Laval à ce moment-là, parce que Rémi Couture habitait à Laval.
Okay, ouais.
Et les policiers n'ont pas pris ça, ils ont vu l'absurdité, parce que c'est un site web qui, ouais. fait, qui explique, il dit « entrez pas », il y a vraiment une mise en garde, tu sais, ben là, il faut se remettre dans l'époque aussi. Il y a une mise en garde bien avant, il a commencé le site avant, mais il y a une mise en garde de c'est pour les 18 ans et plus, cœur sensible s'abstenir.
Okay.
Ce que vous allez voir, c'est gory, c'est sanglant puis tout ça. Lui, dans le fond, il fait la promotion de son art de maquilleur autodidacte, mais à force d'en faire, il est devenu très bon.
Ouais.
Et ça a l'air tellement vrai qu'il y a du monde qui ont pris ça comme à la lettre, puis ils ont dit hey, il y a du monde à Montréal, qui font des choses puis qui prennent ça en photo.
À Laval, précisément.
À Laval, plus précisément.
Parce qu'à Montréal, on fait pas ça.
Et ça, non, à Montréal, on fait pas ça. Juste à Laval. mais ça, c'est bien avant aussi l'affaire Magnotta.
Oui, ben oui.
Oui. Mais bon. Même à ça, à un moment donné, ça s'est comme croisé, là. Ça a remis de l'huile sur le feu. Oui, oui.
Okay.
Mais regarde, je vais. À la place là, de divaguer, parce que ça fait quand même 2-3 semaines que je l'ai lu, puis je lis 2-3 livres en même temps en ce moment. En gros, qu'est-ce que ça dit sur la jaquette? Ça dit « Maquilleur et créateur autodidacte d'effets spéciaux ». Comme je disais, Rémi Couture a vu sa vie basculer à l'automne 2009 lorsque des policiers se présentant comme des clients excentriques l'ont arrêté pour l'accuser de corruption de mœurs et de production de matériel pornographique incitant à la violence. Il aura fallu plus de 3 ans avant qu'un jury rejette en 24 heures les prétentions du ministère public et acquitte l'artiste, concluant que bien que violente et dérangeante, les scénarios, mise en scène, photographie et maquillage de Rémi Couture constituent de l'art. Voici son histoire.
OK. Donc, ça finit bien là, à la fin.
Ça finit bien, mais le gars, tu vois là, qu'il y a eu des parts de doute. Il a commencé avec un avocat. L'avocat faisait aucun travail pour lui. Il a été découragé. Il a eu une dépression. Il a réengagé d'autres avocats. Ça lui a coûté une fortune. Et il y a une préface de Mike Ward. Et Mike Ward, là-dedans aussi, Mike Ward, l'humoriste, se bat pour le droit à la liberté d'expression.
Ouais.
Et il a fait des spectacles bénéfices pour aider Rémi Couture à avoir payé les frais d'avocat qui sont faramineux, dispendieux.
Ouais, ouais.
Pour ceux qui ont déjà vu. À chaque fois que tu vas en cours ou que tu as à mettre des avocats, que ce soit familial, en business ou comme ça pour te défendre, c'est pas reposant. Moi, je compare ça à monter dans le ring. Puis t'es seul dans le ring. Même si ton coach, même si tu es entraîné, même si t'as les fans, même si y a des fans ou du monde qui le supportait, t'es tout seul dans le ring. Puis c'est son combat. Puis il l'a gagné, puis c'est vraiment c'est passionnant, c'est captivant.
Puis ce qui était intéressant...
C'est tout petit à lire,
Ouais, puis plusieurs... ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs photographies. Donc juste pour comprendre un peu son travail, son type de travail. Donc il y a plusieurs images dans le...
Ouais.
Dans le livre qui montre très bien justement que c'est extrêmement gore.
Oui.
Donc là, tu me montres une image d'une femme couchée sur un lit, sur le dos, avec un crucifix planté dans la gorge.
Mais on va pas trop dans les détails. C'est le matin, peut-être le monde sont en train de prendre un petit déjeuner.
Mais
on va porter les enfants à l'école à cette heure-là. Oublie pas, toi aussi, t'es dans cette situation.
Ouais, mais bon, il y a moyen de mettre en contexte. C'est du maquillage, c'est juste ça. Des trucages.
Ouais. C'est des effets cinéma. Spéciaux.
Des effets exactement. Spéciaux qui sont très réalistes.
Il est allé en Égypte moi, je trouve ça fascinant, sa partie aussi. C'est sûr qu'il parle de son combat judiciaire, mais il parle aussi de sa démarche artistique. Et il est allé à un moment donné en Égypte et il a rencontré une comédienne ou une figurante là, pour ses projets. Il l'a maquillé. Ils sont allés près des pyramides de Gizeh. Et il a pris des photos, mais il y a eu beaucoup de difficultés. Les autorités, ils doutaient. Puis tu peux pas faire n'importe quoi, tu sais. C'est comme un patrimonial.
Okay, ouais.
Fait qu'on voit des photos qu'il a pris à la va-vite, là. Tu sais, il dit, c'est pas la meilleure séance de photos qui met en évidence mon travail, mais tu sais, ces photos-là sont faites. Là, l'autre photo à côté est assez épeurante. Regardez le livre. Il a l'air très sympathique. Ça se lit bien. J'en dis pas plus, mais j'ai une question. je me pose moi-même la question. Puis lui aussi se l'est posé souvent. Tu sais, le spectacle de la violence, c'est un métier d'artiste, la censure web, le do-it-yourself, les injustices judiciaires. On va-tu trop loin des fois avec tout ça? C'est tout.
Moi, ouais, c'est des bonnes questions, effectivement. Surtout que, bon, on est tellement facilement submergé de produits culturels, de cinéma, télévision, avec beaucoup de violence.
La violence est devenue présente.
Partout, dans toutes les téléséries, les films hollywoodiens. C'est sûr que, bon, il y a beaucoup la culture américaine là, qui est derrière tout ça. Je veux pas, mais qu'on le veuille ou non, la culture américaine elle s'est propagée partout dans le monde. Et le cinéma hollywoodien a comme un peu, comment je dirais, influencé les autres cultures dans le monde, ce qui fait que ben on peut voir des films d'une extrême violence venant de partout.
Oui.
Mais effectivement, c'est des bonnes questions. Est-ce qu'on voit trop de violence? Est-ce qu'on devient insensible à voir trop de violence? Puis d'un autre côté, ça, là, on parlait de la fiction, mais en même temps, si je te...
Dans la réalité,
la réalité, quand on regarde le téléjournal, quand on lit les journaux, ben il y a énormément de violence à travers le monde.
Exact.
Est-ce que trop d'informations, c'est une bonne chose ou pas? J'ai pas la réponse. Mais reste qu'il y a quand même, je pense, qu'une partie de la réponse réside dans le fait qu'il faut éduquer à comprendre la violence. Tu sais?
Ouais. Merci, professeur Molina.
Ben, tu sais, j'essaie de répondre à la question, j'ai pas la réponse, mais moi, je me dis que la violence, elle est là.
Ouais.
Ça fait partie de la nature humaine, mais est-ce qu'on peut la comprendre et pas juste la montrer?
Non,
mais, c'est de mettre du contexte autour d'eux.
Exactement. Puis il faut qu'elle soit mise, c'est ça. Mais lui, dans son site web, il l'avait dit d'avance, comme il n'y a pas, entrez pas là, c'est 18 ans et plus. Liberté d'expression, liberté artistique. Si tu as mis le sur ton produit, que ce soit un film, une cassette, n'importe quoi, un CD, un vinyle, un film, si tu as dit, d'après moi, si tu as dit 18 ans et plus ou s'adresse à un public avisé, ben là, tu peux pas venir te plaindre après. Tu as juste à pas l'écouter, tu as juste à fermer la TV. C'est pas pour tout le monde, mais il y en a qui sont friands de ça, surtout en des périodes comme l'Halloween, comme Fête des morts, tout ça au mois de novembre. Je veux dire, ça fait partie de la vie, la mort.
Oui. Puis, ben la mort, ben ça se met en contexte.
Exactement.
Tu peux toujours parler de la mort, mais tu sais, de façon à ce que si tu cherches à provoquer gratuitement, ben c'est cela que ça peut revenir contre toi. Je dis pas que tu n'as pas le droit, mais c'est juste que c'est ça. C'est sensible.
Débat de société.
On n'a pas les réponses. On pose des questions, mais on n'a pas les réponses.
Qu'est-ce qu'il y a dans ton café? Moi, mon smoothie, y a-t-il des vitamines C boostées? Non, mais changement de sujet. Non, pas tant que ça. On est deux amateurs de podcasts et on voudrait souligner le fait que aujourd'hui même, peut-être quand vous allez l'entendre, ça va être des vieilles nouvelles, mais moi, je tiens à le souligner, c'est que Mike Ward a gagné contre Jérémy pour le droit d'expression, le droit de libre expression.
Oui.
Fait qu'on on vient de l'apprendre, vous allez en lire, ils vont en parler, c'est un débat. Mais moi, je pense que c'est important, la liberté d'expression. Encore là, les jokes, les films, si t'aimes pas ça, ferme la radio, ferme la TV, va pas voir le show. Va pas, il y a du monde qui vont voir un show du monde, puis ils disent « j'aime pas ça » ou ils le détestent. Pourquoi t'as payé? Comme, informe-toi avant.
Ben c'est surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises. Encore là, je reviens au contexte.
Oui.
Surtout dans le milieu de l'humour. Parce que là,
c'est hors contexte.
Il y a beaucoup de choses qui sont prises hors contexte. Puis, sauf erreur, dans ce cas-ci de Mike Ward, c'était une blague qui était vraiment prise hors contexte.
Oui.
Et, c'est ça. C'est que, tu sais, puis encore aujourd'hui, il y a Dave Chappelle qui se fait lancer beaucoup de tomates. Netflix aussi reçoit beaucoup de tomates à l'interne. Donc, on comprend tout ça. Donc, il y a effectivement des gens qui se sentent peut-être blessés par des choses, mais...
Mais prenez pas la blague, justement, hors contexte. Vous la voyez dans l'ensemble du spectacle, sur quel ton est dit, dans quel contexte. C'est un ensemble.
Puis c'est une chose d'être OK, on peut être se sentir offusqué de certaines paroles, mais est-ce que on devrait pour autant interdire ces paroles-là? T'sais? Ça revient à la même question que Rémo Couture, dans le fond. Est-ce qu'on devrait interdire? C'est la ligne, il y a une ligne qu'on ne peut pas facilement tracer.
Débat de société.
Débat de société.
Et je me sens comme, admettons, Mongrain, Pierre Pascoe, Gilles Prou, le Doc Mayou. On s'en va pas là. On est un show culturel, rock and roll, rap, reggae, jazz, fusion, prog, name it. Mais pourquoi qu'on est rendu là?
T'as nommé les pires noms, Marc-André, que tu pouvais nommer.
Mais c'est pas de faire du name dropping.
Des animateurs d'actualité.
Mais il existe pas. Le trois quarts du monde vont même pas savoir de qui qu'on parle, mais c'est le fun de faire ce genre de name dropping.
On veut pas se comparer à ces messieurs-là. Hey, assez parlé de choses sérieuses, s'il vous plaît, Marc-André, j'aimerais ça qu'on continue en musique. Tu veux nous mettre une belle chanson, s'il te plaît, changer l'ambiance. Pèse sur le piton, s'il te plaît. Faut que je parle encore? OK. Ben écoute, on est lundi matin, tout le monde, vous écoutez le lendemain de la veille, et c'est parti en musique. C'était Molotov. Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Marc-André, tu as choisi une chanson qui rock.
Molotov!
En espagnol, por favor.
Sí, vamos a hablar en espagnol porque saludamos a Molotov y el album con todo respecto. L'album, c'était un album de cover qu'ils ont fait. Ban mexicain de Mexico City, LDFA. Puis c'était une cover de des ZZ Top. On l'avait fait jouer, mais elle avait tombé dans le fade-out de l'émission parce que Dusty Hill est décédé, le bassiste de ZZ Top. Fait que c'est un hommage à ZZ Top et à Molotov que tu adores et que j'adore aussi. Et c'est ça. Que dire de plus de Molotov?
Ben, c'est un bon, du bon groupe rock, hein?
Définitivement. Hey, on parlait de drummer l'autre fois. Tu cherchais des drummers jazz puis tout ça.
Je cherchais ça, moi?
Ouais, ben tu disais, moi, les drummers jazz m'impressionnent. Buddy Guy, c'est le guitariste de blues. C'est Buddy Rich.
Ouais.
Buddy Rich était souvent à Johnny Carson. Je ne sais pas si tu écoutais ça, Johnny Carson, avec ton père, le late show.
Et pas là, je pense que je devais avoir 2 ans et demi.
OK, probablement pas. Mais il était souvent l'invité, puis il allait remplacer le drummer de l'orchestre de Johnny Carson, puis c'est lui qui donnait les 4 coups de baguette, puis qui partait le rythme de jazz. Puis le gars, il était en habit, en cravate, ça avait pas l'air, tu sais, flexible, c'était pas un veston ajusté, je sais pas, ça avait l'air trop ajusté, justement.
OK, ouais.
Et il drumme comme un malade, et il est sympathique, il est drôle. Des fois, il arrivait avec des chandails rayés, Johnny Carson riait de son accoutrement, de son habillement, mais il n'y en avait pas 2 comme lui. Et pourquoi que je parle de drummer? Parce qu'on aime les drummers. Et Molotov, Randy, que j'ai connu au Mexique. J'ai déjà raconté l'anecdote ailleurs, mais toi, je suis pas sûr si tu la connais.
Vas-y, on t'écoute.
Tu m'écoutes.
Avant la fin de la mission,
top chrono, c'est quoi avec ton...
5 minutes. Là,
vous voyez pas Nelson, mais il est comme Flavor Flav de Public Enemy. Moi, je suis Chuck D, en passant, de P.E., Public Enemy. Et salut. Et Flavor Flav, c'est le gars qui a la grosse horloge dans le cou. Et Nelson, aujourd'hui, emmené en studio, parce qu'on dépense nos heures avec la productrice.
Et
il reste 5 minutes.
Vas-y, go avec l'anecdote sur Molotov que tu as rencontré au Mexique il y a quelques temps.
Oui, quelques temps avant le COVID, j'étais à Teotihuacan. Je monte les pyramides. C'est un gros site archéologique. Il y a du monde. Il fait chaud. On monte en haut des pyramides. Je suis avec ma copine, sa meilleure amie. On monte en haut et je vois un gars en position du lotus, assis par terre, en train de méditer et prier.
Au sommet de la pyramide.
Au sommet de la pyramide, seul, un güero. Un güero, c'est un étranger, un visage pâle comme moi.
OK.
Puis, un étranger. Fait que là, je dis à ma blonde, je dis à sa chum, je dis, ça, c'est Randy de Molotov.
Non, tu l'as reconnu tout de suite?
Moi, je l'ai reconnu. Moi, je suis comme ça. Je suis visuel. Non, c'est vrai. Puis là, j'ai dit, là, les deux mastines, non. Fait que moi, je suis gêné dans la vie, hein, tu me connais.
Ouais.
Fait que je me suis approché. Tout doucement, j'ai dit « Disculpe ». Je le dis en espagnol, comme je le disais, j'ai dit « Disculpe de molestarte, pero eres el
Désolé
drummer ».
Désolé de vous déranger, vous êtes le drummer de Molotov.
En simultané. Êtes-vous le drummer de Molotov? Ouais, c'est ça que tu lis dans mes pensées. Et là, il me fait un smile. Il dit « Oui, effectivement, c'est moi le drummer de Molotov ». Et j'ai une discussion avec lui, puis je raconte que j'ai vu Molotov en 97 en Argentine. Le premier album vient de sortir. Ils ont ouvert pour Caballeros de la Quema, Todos Tus Muertos d'Argentine et Los Fabulosos Cadillac, c'était leur show. Et c'est Molotov qui rouvre. Pour ceux qui ne connaissent pas Molotov, je l'ai déjà expliqué souvent, c'est comme si Rage Against the Machine puis Beastie Boys se rencontrent, font des enfants ensemble, puis il y a des Mexicains dans l'histoire, puis ça fait Molotov. Fait que dans Molotov, tu as du rock, du reggae, exactement, et du Latin flavor. Fait que tu as tout ça. Ça chante en anglais, ça chante en espagnol, ça chante en slang, name it. C'est très... unpolitically correct.
C'est un gros groupe au Mexique, dans le sens qu'ils sont très, très populaires.
Oui. Mais très terre à terre, très cool, très humble. Randy, super bon dude. Belle discussion avec lui. Et là, qu'est-ce qui est super drôle, c'est que nous autres, on parle avec, un bon bout, et là, on prend des photos. Puis là, il y a des touristes, puis là, le monde se demande, mais c'est qui? Ils viennent nous voir, puis ils disent, c'est qui? Pourquoi vous prenez des photos? Ben, c'est un drummer d'un groupe, puis c'est des Japonais qui viennent de nous voir, puis tout, puis ils vont le voir, ils prennent des photos, ils savent même pas c'est qui.
Okay.
Et là, les Mexicains, il y a des Mexicains, on est plein, là, sur le site, et là, les Mexicains réalisent c'est qui. Ils sont connus, là, quand même.
C'est ça, exactement.
Ils sont vraiment connus.
C'est des vedettes.
Mais c'est comme, il est pareil, il est comme, il était pas en habit cravate, il est en t-shirt, he's the same guy. Fait que je salue Randy, super cool. Faire une histoire courte, il m'envoie un texto
quand j'étais à Montréal, puis il me dit « Hey, j'ai des bonnes nouvelles. » Fait que là, la première fois que j'ai dit « Un nouvel album, enfin, de Molotov. » Il dit « Non, tu vas triper. » Il dit « We're coming in North America. » Ils font une tournée et ils se sont arrêtés à Montréal au Club Soda, sold out. Et ça, c'est de la petite histoire. Peut-être la prochaine fois, j'aurai le temps de raconter la suite. Parce que là, je pense que le temps va très rapidement.
Il reste 30 secondes.
30 secondes. En 30 secondes, on veut souhaiter bonne fête à l'album de Jean Leloup, Le Dôme.
Bonne fête.
De Jean Leloup. Non, mais à l'album de Le Dôme, où est-ce qu'il y a toutes les bonnes tunes, I Lost My Baby, Le Dôme, naturellement, La Drop Sociale, Go Johnny Go.
Oui.
Fait que ça, c'est un album marquant.
Excellent album. De A à Z.
Exactement.
Puis ça. Après, il y a eu Les Fourmis, je pense, qui a suivi.
Ouais. Puis, La Vallée des Réputations.
Un peu plus tard aussi.
Et ça continue.
Ouais.
Mais John The Wolf. Le Dôme a 25 ans, j'en reviens même pas.
C'est vrai.
J'ai tellement écouté. C'est excellent. On vous en fera pas jouer. Vous savez où l'écouter. Mais respect à la musique rock québécoise.
De Jean Leloup.
De Jean Leloup.
On se quitte là-dessus, Marc-André, déjà. Oui. Si on n'a plus de temps. Merci.
On n'a plus de musique non plus, on n'a plus rien.
Merci beaucoup, Marc-André, pour tes suggestions. On se revoit la semaine prochaine.
Si Dieu le veut.
Bye bye.
Bye bye.
Attention McGill undergraduate students. Referendum is upon us. Exercise your right to vote on questions that matter to you and your campus experience. Vote in the fall referendum period from Monday, November 8th to Friday, November 12th. Look for your ballot in your McGill student email between November 8th to 12th. Let's rock the vote.
En la pandemia, nuestros niños demostraron lo fuertes, pacientes y resilientes que pueden ser. Llegó el momento de que vuelvan a disfrutar de la niñez. Junto a familiares y amigos,